I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler de la quatrième mort de l'E3, peut-être même la cinquième. On a aussi plusieurs concurrents au Steam Deck et peut-être d'une certaine manière à la Switch. On a aussi Storyteller et plein d'autres choses. C'est parti dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 288, nous sommes en mars, avril, déjà avril, incroyable, 2023, je suis Patrick Béja et très heureux de vous recevoir dans cet épisode dans lequel je reçois également deux invités formidables qui vont relever le niveau de cette émission que je m'acharne à essayer d'abaisser. Heureusement, ils sont là. On a d'une part Julie Jorniaud qui nous rejoint pour la... Ouf, là, t'es une habituée, Julie. Ça fait 4 fois, 5 fois que t'es avec nous. Comment vas-tu ?
Oui, c'est la première fois. Bah, ça va, toujours un plaisir d'être là.
Merci d'être avec nous. On rappelle que tu travailles pour Riot Games. Oui, Games avec un S, ce qui est justifié depuis quelque temps. Oui. Merci d'être là. On a aussi parmi nous le merveilleux Jordan Cunier qui nous vient en prêt de Actu Gaming.
Bonjour. C'est ça. Bonjour tout le monde.
Bienvenue parmi nous. C'est la deuxième fois que tu es avec nous cette fois pour toi. Donc, on t'a pas fait peur la première fois. Je prends ça comme un bon signe.
Non, c'est très bien passé.
Merci beaucoup d'être avec nous également. On remercie évidemment les Patriotes qui ont rejoint l'émission et qui nous permettent de la faire, tout simplement, de la financer. On a d'une part Cortefis Eriagan, ça sent le nom de jeu de rôle qui est resté, ça. Je parle peut-être en connaissance de cause. On a aussi Vincent Terraillon, French Sword, qui est peut-être aussi un nom de jeu de rôle, ou sinon ça fait peur. Merci à vous trois d'avoir rejoint le Patreon, et évidemment le producteur Steph Sinalco, qui a trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvjeu. Alors, tous les patriotes ont trouvé patreon.com/rdvjeu. Ça, c'est l'étape 1, mais il y a l'étape 10, qui est de trouver le niveau secret, et Steph a réussi à le faire. Et donc, on le remercie tous les mois en tant que producteur. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir cette émission. On va commencer avec nos sujets, mais avant ça, juste un petit rappel. Il y a le sondage des auditeurs qui est en place. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Le sondage des auditeurs, c'est un petit sondage assez rapide dans lequel je vous pose des questions sur vous, sur vos habitudes d'écoute de l'émission, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Et en plus, il y a dans ce sondage des photos de moi. Alors, je ne dirais pas compromettante, ce n'est pas quelque chose de graveleux, évidemment. Mais peut-être que je préférerais qu'elle ne circule pas sur Internet et je dépasse mes appréhensions pour vous motiver à aller faire ce sondage. D'après les retours des premiers sondés, verbatim, il y a des gens qui ont dit que ça a un peu changé leur vie. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller répondre au sondage, mais si vous le souhaitez, ça me file un coup de main. En plus, vous avez ce témoignage des années précédentes qui est un petit peu choquant, donc préparez-vous quand même. Le lien vers le sondage est dans les notes de l'émission. Merci à tous ceux et à toutes celles qui répondent. Et on enchaîne tout de suite avec les infos à retenir de cette semaine. Alors la première info qui avait été un petit peu présagée, même plus que présagée la semaine dernière, c'est que l'E3, on disait la semaine dernière, il aurait bien du mal à se tenir. Et effectivement, quelques jours à peine après l'enregistrement de la semaine dernière, on a eu la confirmation que l'E3 n'aurait pas lieu cette année. La direction de l'E3 assure qu'ils reviendront l'année prochaine, avec Reed Pop, l'organisateur de l'événement qu'ils avaient engagé. On est en droit de se demander si ça se fera effectivement, parce que la cause essentielle du problème de l'E3, c'est que, comme on en parlait la semaine dernière, on a bien détaillé, les constructeurs n'ont pas d'intérêt à aller à ce salon qui finance l'association des éditeurs de logiciels de loisirs aux États-Unis, l'ISA, Entertainment Software Association. Et ils n'ont pas, même s'ils font partie de cette association, l'E3 étant la principale source de financement de l'association, et ben individuellement, en tant que société, ils n'ont plus intérêt à aller dépenser des millions dans des stands monumentaux quand ils peuvent tout simplement faire un petit direct sur Internet et avoir tout autant de couverture. Alors, il y a un problème de business center et de deal, de trade qui ne se font pas de la même manière sans doute, puisqu'il n'y a pas le salon et les rencontres business, mais la plupart des éditeurs et des développeurs ont fait le choix, semble-t-il, de ne pas être présent à l'E3. Donc un E3 sans développeurs et sans éditeurs, ça n'a pas grand intérêt. La grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que l'E3 va revenir l'année prochaine ou est-ce qu'il est définitivement mort et enterré ? Ce n'est pas la première fois que le salon est annulé, hein, c'est arrivé plusieurs fois dans les années qui ont précédé, en particulier pendant le Covid, mais pas que. Là, j'ai l'impression que ça a l'air bien foutu, quoi. Jordan, toi, tu l'as évidemment couvert à plusieurs reprises, le salon. Est-ce que tu le vois revenir ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi ? Est-ce que il te manque déjà ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
En tant que spectateur, je pense qu'il va me manquer, même si au final, ça ne change pas grand-chose pour nous, parce qu'on aura tout de même le bal des conférences qui sera toujours là début juin. Donc, au final, on ne va pas trop voir la différence. Après, est-ce que je pense qu'il va revenir ? Oui, mais pas sous la forme qu'on le connaît. Je pense que vraiment, s'il revient, sa seule porte de sortie, on va dire, ça sera du B2B. Je pense vraiment pas qu'il puisse revenir concurrencer maintenant le Summer Game Fest avec un événement physique comme avant. Ça, c'est sûr.
Du coup, il y a une question même qu'on peut poser, c'est est-ce que si c'est uniquement du B2B, est-ce que c'est encore l'E3 ? Je ne sais pas si...
Ce sera certainement une GDC ou quelque chose comme ça, mais oui, ce sera différent. Oui.
Ah, ça serait intéressant, cette orientation, effectivement, peut-être d'en faire un événement très focalisé sur les professionnels. Alors, la GDC, elle existe déjà, mais peut-être qu'il y a un moyen de trouver un autre angle qui pourrait être intéressant. Je me demande s'ils s'en contenteraient, parce que l'important de l'E3, c'est effectivement les stands qui coûtent des millions, qui financent l'ESA. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a que du côté business, est-ce qu'ils ont intérêt à s'emmerder pour le faire quand même ? Peut-être pour la renommée, c'est possible. Mais tu fais bien de le signaler. Évidemment, enfin, c'est clair, on aura quand même notre Super Bowl de gaming à nous, qui est la série des conférences du milieu du mois de juin, sous la houlette du Summer Game Fest, qui met juste son petit sticker sur les... De Jeff Keighley, hein, qui met juste son petit sticker sur les conférences, dire « ça fait partie du Summer Game Fest », mais ça n'implique aucune dépense supplémentaire, ni même aucune implication pour les développeurs qui en font partie. Mais ça, il y aura toujours. Par contre...
Alors après, ça dépend, parce que maintenant, le Summer Game Fest, il est passé en hybride. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie physique qui est présente à Los Angeles, où tu as forcément des studios qui vont devoir faire des démos pour les gens présents sur place. C'est pour ça que je pense qu'au final, ça va peut-être pas changer grand-chose pour les studios, plus qu'ils vont devoir quand même fabriquer des démos pour les présenter à Los Angeles, si ce n'est que, bah oui, ils vont pas payer des fortunes pour installer un stand L3.
T'as raison de le mentionner, ça aussi. C'est les Play Days, je crois, quelque chose comme ça, le nom de la partie physique.
Comment ça s'appelle ?
À ce stade, c'est vraiment pas très ambitieux. Hein. C'est en gros de ce qu'on avait compris de l'année dernière. L'année dernière, c'était, bon, je schématise un peu, mais c'était une chambre d'hôtel qu'avait loué Jeff Keighley pour inviter ses amis avec des consoles de démo. Là, ça a l'air d'être un peu plus ambitieux, mais ça a l'air d'être quand même très limité aux journalistes et à la presse. Peut-être qu'il peut en faire quelque chose de plus ambitieux à terme, c'est pas impossible, mais il n'aura pas besoin de faire payer les encore que il veut faire de l'argent, hein, il a les dents qui percent le parquet, mais est-ce que ça sera un truc qui rebutera les constructeurs de la même manière ? Si ça devient un truc vraiment comparable à l'E3, bah, ils n'ont pas plus intérêt à y aller, parce que pour les beaux yeux de Jeff Keighley, donc à voir comment ça évoluerait. Julie, alors Riot, traditionnellement, ne fait pas énormément de marketing traditionnel. Je ne sais pas si vous étiez présent sur des events comme celui-là, sur la partie publique. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas ?
Bah alors pour nous, non. Et moi, l'E3, ça fait un moment que j'y crois plus, pour plein de raisons. Côté Riot, il y a très peu d'intérêt, parce que c'est un événement qui est très console-focus au final. là où nous, on est vraiment plus PC et jeux en ligne. Et quelque chose que... Alors moi, c'est peut-être... Moi, plutôt personnellement, qui pense ça, mais je trouve que si on parle d'un point de vue marketing et intérêt pour l'éditeur, se mélanger au milieu de plein d'annonces, ça demande un effort énorme en termes de communication pour réussir à sortir du lot. Et du coup, pour un éditeur, je pense que c'est de moins en moins intéressant d'être là-bas. Avant, on pouvait jouer sur la hype de l'E3 et du coup, les gens regardaient peut-être des annonces qu'ils n'auraient pas regardées habituellement. Et ça, ça a aidé. Mais aujourd'hui, avec le Covid, on a vu qu'il y avait des conférences en ligne qui se développaient par éditeur. Et au final, je pense que ça, c'est plus pertinent côté éditeur parce qu'on arrive à avoir plus de place sur les internets, on va dire. Ouais. Plus de coverage, ouais. Même côté presse, côté joueur.
C'est pour ça que tout le monde a fini par adopter la méthode Nintendo qui faisait un petit peu rigoler en 2013, mais qui, ouais, au final... Et c'est ce que vous faites aussi, d'ailleurs, chez Riot. Vous avez, ouais, un certain nombre de... La plus importante en début d'année, mais vous communiquez directement. Riot, vous avez communiqué directement depuis très longtemps, en même temps. Mais...
Ouais, on n'a jamais été présent dans des grands salons. Jamais. On a été une fois à la PGW, mais c'était un tout petit stand pour fêter les 10 ans de Ligue. Mais à part ça, on ne va pas du tout sur les salons. On préfère... avoir une totale indépendance sur notre communication.
C'est quand même une méthode de fonctionnement assez particulière chez Riot, et puis une place qui, au fil du temps, vous a permis de complètement vous en passer. Mais j'imagine que pour la partie qui va manquer, c'est l'aspect business. D'ailleurs, peut-être que cette partie vous intéressait aussi, je ne sais pas si c'est le cas chez Riot, mais... La partie business, le business center où les deals se font, c'est ce dont on parle depuis que les discussions sur l'E3 ont lieu. La partie où les deals se font, il y a des développeurs qui rencontrent des éditeurs, etc. Alors, il y a d'autres salons pour faire ça, sans doute. La Gamescom, des salons un petit peu plus confidentiels, même s'ils sont populaires, comme les PAX, les différents PAX. Encore que c'est plus des conventions de fans, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça marche de la même manière, en partie, sans doute. Est-ce que ça, tu crois que ça va avoir un impact quand même? Comment est-ce que les éditeurs, j'exagère peut-être un peu, mais les éditeurs vont plus pouvoir trouver de jeux à éditer s'il n'y a plus le 3?
Après, moi, j'ai un point de vue qui est très, on va dire, grosse boîte, parce que j'ai le point de vue côté Ubi, quand j'étais à Ubi et aujourd'hui à Riot. Et de ce que je vois à Riot, c'est que finalement, même la partie B2B, on n'en a pas tant besoin que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de canaux de communication qui existent qu'on arrive à communiquer assez bien dans l'industrie. Je pense que l'intérêt de l'E3, pour moi, il était vraiment plus... c'était vraiment un rendez-vous de passionnés où il y avait la hype d'annonces de plein de nouveaux jeux. Enfin, pour moi, ça a beaucoup moins d'intérêt si ça passe en total B2B. Surtout que, comme tu l'as dit, il y a déjà d'autres salons qui le font très bien. Donc honnêtement, moi je suis peut-être un peu moins optimiste. J'ai l'impression que l'E3 qui revienne, ça va être compliqué, ou alors il faudrait qu'ils arrivent à trouver un format qui soit vraiment vraiment innovant, et je n'ai aucune idée de ce que peut être ce format.
Je crois que c'est un petit peu l'ambiance générale. Il y a des gens qui disent oui, enfin ça peut marcher, les salons, il y a la Gamescom, il y a le Tokyo Game Show. Ils ont tous des circonstances tellement spécifiques et il y a une place tellement particulière dans ces salons. La Gamescom, par exemple, il faut bien comprendre que c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde. Il y a genre entre 200 et 350 000 personnes qui viennent chaque année. Alors, c'est beaucoup d'Allemands en short et en chaussettes sandales, donc il faut avoir le cœur bien accroché pour y aller quand même, mais c'est quand même un salon incontournable. Puis, il y a un gros business center, effectivement. La date fin août, ça fait que ce n'est pas exactement le même positionnement marketing, commercial... que le 3 qui a sa place dans le cycle de hype des grosses ventes de fin d'année, même si tout ça s'est un peu étalé. Le TGS, le Tokyo Game Show, c'est un gros salon au Japon, c'est le salon du Japon, et on sait comme le salon a une importance privilégiée dans le monde du jeu vidéo, donc un salon au Japon, ça a du sens. Je crois qu'il y a de la place pour une fête marketing à cette date-là en juin, et c'est pour ça qu'elle va continuer avec les conférences. Mais je ne sais pas si le fait que le Tokyo Game Show ou la Gamescom existent veut dire « Ah bah donc, c'est facile de faire un salon de cette ampleur ». Je crois que l'histoire prouve que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un truc? Peut-être. C'est possible. J'aurais curieux, ça serait triste de voir le 3 complètement disparaître quand même. En même temps, on a Jeff Keighley qui prend la relève, donc why not. L'autre grosse news que je voulais traiter aujourd'hui, c'était l'annonce et les premières impressions, on ne va pas dire vraiment test, de la ROG Ally. C'est enfin Allié, c'est le terme anglais pour Allié, qui est une console portable Asus, enfin un PC portable Asus, qui vient évidemment concurrencer la Steam Deck, dont JK nous parle à peu près 4 fois par épisode quand il est là, et qui est, soyons honnêtes, c'est le succès matériel de Valve. C'est le truc qu'ils ont enfin réussi à faire marcher après avoir sorti plein de types de matériel différents. Et bah, ça fait des petits. D'autant plus que c'est à la base inspiré de la Switch, qui est un succès qu'on n'explique plus à tous les sens du terme. Et donc, évidemment, bah, ça fait des petits, ça fait des envieux. Et Asus semble vouloir se lancer dans la course également avec une console qui ressemble à la Switch et la Steam Deck, qui est à peu près de taille Steam Deck, donc un petit peu imposante, un peu plus petite que la Steam Deck, mais surtout... Elle a plus de puissance, à peu près 2 fois plus de puissance qu'une Steam Deck, un superbe écran OLED 120 Hz. Et bah, les impressions des joueurs qui ont mis les mains dessus, assez silencieuses aussi. Je vais vous passer les détails techniques, hein, un processeur plus puissant, dernière génération AMD, machin, etc. Mais surtout, donc, un meilleur écran, une taille un petit peu plus ramassée, même si elle n'est pas aussi petite que la Switch. Petite, hein, vous entendez les guillemets. Et le truc, c'est que on n'a pas d'informations sur la durée de la batterie ni sur le prix. Et c'est surtout ce dernier élément qui pourrait faire mal parce que on a du mal à imaginer avec un Steam Deck à peu près 500 boules, on a eu du mal à imaginer une ROG Ally qui fasse moins cher que ça et on peut facilement l'imaginer qui soit beaucoup plus cher. Jordan, client, optimiste, sur les listes de précommandes
Non, parce que je pense vraiment, comme tu dis, que ça va largement dépasser les 500 euros. Mmh. Je pense que ça, c'est acté.
Beaucoup de gens parlent de milliers d'euros qui ne seraient pas déconnants. Tu vois ça à ce prix-là, toi aussi.
Bah, vu la technologie embarquée, oui, ça ne m'étonnerait pas. Et tu l'as précisé, je pense qu'on se pose aussi beaucoup de questions sur la batterie. Vu tout le matériel qu'elle embarque, j'ai du mal à croire que ça dépasse les peut-être 2 heures de batterie.
Ah oui, tu
donc,
crois
bah, avec un écran comme ça, avec un processeur comme ça, déjà que le Steam Deck, la batterie n'est pas exceptionnelle, j'ai vraiment du mal, en plus apparemment donc elle est effectivement moins lourde que le Steam Deck, j'ai vraiment du mal à croire que dedans il y ait une grosse batterie qui fasse durer plus de 2-3 heures. Oui.
Ça risque effectivement d'être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Disons que 3 heures. Mais en même temps, tu vois, la Switch, quand elle est sortie, elle faisait 3 heures. Le Steam Deck, raisonnablement, tu peux compter sur 1h30 à 3 heures en batterie. Et pourtant, tout le monde adore. Donc,
oui, non, mais, je suis d'accord. Après, si c'est 3 heures, c'est vraiment dans le meilleur des cas, je pense. Mmh. À mon avis, ça ne dépassera pas 2 heures. Et après, il faut voir le prix, effectivement. Mais pourquoi pas ? Après, je ne suis pas sûr que mettre 1 000 euros, si c'est... cette gamme de prix dans un Steam Deck plus, ça vaille vraiment le coup quand il y a déjà le Steam Deck qui me semble être un bon compromis niveau rapport qualité-prix, quoi.
Tu dis 2 heures, on joue à Storyteller et ça dure 8 heures ta machine, tu vois. Mais ça dépend du jeu. Je veux être un petit peu optimiste. Julie, tu es cliente du ROG Ally?
Pas du tout, mais alors moi c'est plutôt parce que je suis pas vraiment cliente console et
mais justement,
et moi,
alors j'ai oublié de le préciser, il tourne sous Windows, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour la batterie, en fait, mais il tourne sous Windows, donc c'est la manette qui gêne
au niveau des, moi du côté manette, en fait ça limite, c'est pas les jeux, j'aime beaucoup, il y a plein de jeux console que j'adore, mais c'est vrai que quand je peux jouer avec mon clavier et ma souris, c'est quand même mieux. Et si je voyage, eh ben, j'ai ma Switch. Et la Switch, honnêtement, je la trouve vraiment, vraiment bien. Surtout qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont super dessus. Donc j'ai... Surtout si c'est un prix à... Je te mets une balle, je me vois mal mettre cet argent-là alors que j'ai déjà une Switch et mon super PC, quoi.
j'ai l'impression que c'est effectivement, si c'est compétitif au niveau du prix avec la Steam Deck, ça pourrait donner quelque chose. Si on parle de prix, encore une fois, on n'a pas les prix officiels, mais si on parle de prix qui sont presque doublés par rapport au Steam Deck, ça va en convaincre des gens, hein, bien sûr. Mais comme tous les matériels Republic of Gamers et ROG de Asus, bah, c'est des trucs qui vont chercher les gens qui sont très, 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 très gamers, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent dans leur PC, qui en plus vont dépenser beaucoup d'argent dans leur PC portable pour avoir le meilleur matériel, le plus performant. Je ne sais pas si ça ira ratisser aussi large que la Steam Deck, qui déjà ratisse pas aussi large que la Switch. Bon, clairement, il y a un marché, mais c'est un marché qui risque d'être un petit peu de niche, à voir quand on aura les détails. Mais du coup, si vous n'êtes pas intéressé par ça, peut-être que vous serez intéressé par une PlayStation Vita 2 que serait en train de développer Sony. Merveille, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de cette news la première news de l'épisode ? En fait, parce que ce n'est pas vraiment une PlayStation Vita 2, c'est difficile d'avoir le détail des rumeurs, mais de ce qu'on comprend, ça serait une sorte de console portable de Sony prévue uniquement pour le streaming en remote play par la PS5. Et donc, ce n'est pas vraiment une console portable. Et je crois que quand ils le présenteront plutôt comme un accessoire pour la PS5. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche de la mablette de la Wii U que de la Switch. Ça serait vraiment une manette avec un écran. Et c'est prévu pour les gens qui... t'as fait la news, Jordan, je devrais peut-être te laisser la présenter. La news sur ActuGaming, qui était en France, je crois, avant tout le monde. C'est là-bas que je l'ai vu en premier. C'est une PS Vita, c'est une mablette, c'est quoi ce truc ?
Alors déjà, je pense qu'il faut mettre un petit peu les choses dans le contexte. C'est vraiment une rumeur pour l'instant. Donc elle nous vient de Tom Anderson, qui est un insider qui se fait de plus en plus un nom ces derniers temps. On va quand même prendre des grosses pincettes avec ça, parce que même si il y a eu des échos d'autres journalistes comme Jeff Grubb qui ont confirmé qu'il y avait quelque chose qui se préparait effectivement du côté de Sony avec une autre machine qui arriverait avant une potentielle PS5 Pro, etc. Je pense qu'il faut être un petit peu prudent avec ce genre de rumeurs, mais si c'est vrai, on parlerait effectivement d'une console qui en interne est baptisée Q-Lite, qui serait en quelque sorte effectivement une DualSense, on va dire, avec un écran au milieu, c'est-à-dire qu'elle embarquerait toutes les fonctionnalités de la DualSense, donc c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, les retours haptiques, etc. Mais effectivement, on se dirigerait pas vraiment vers une nouvelle PS Vita 2, parce qu'il n'y aurait pas de jeu spécifiquement pour cette console. Ce serait vraiment que sur du remote play, et j'ai personnellement beaucoup du mal à voir l'intérêt de ça, parce que le remote play, on peut déjà le faire avec d'autres choses. Donc j'ai du mal à voir des gens payer un accessoire qui sera forcément très cher. Je pense qu'on a vu avec les derniers accessoires de Sony, ça sera forcément très cher. Il suffit de voir la manette de luxe qu'ils ont sorti récemment. Donc voilà, j'ai du mal à trouver un vrai intérêt à ce matériel.
C'est-à-dire qu'en ce moment, chez Sony, tu imagines le prix que ça pourrait valoir et tu rajoutes minimum 200 euros. Ou tu rajoutes minimum, on va dire, 25-30%. Et là, tu as le prix de Sony.
Non, mais si on est à 400 euros, ça ne m'étonne pas du tout.
À ce point-là ?
Quand tu vois le prix de la manette, je ne sais plus comment elle s'appelle, Edge ?
Oui, DualSense Edge, qui est à 250 euros.
250, qui a déjà baissé parce qu'effectivement, ça ne se vendait pas. Quand tu vois le prix du casque PSVR, alors ça se comprend, hein, le PSVR 2, il y a une technologie qui fait que le prix est justifié. Mais je ne vois pas une manette comme ça avec un écran sortir à moins de 300-400 euros, ça c'est sûr.
Alors moi, j'imagine que ça serait beaucoup moins cher que ça. Je pense qu'à 150-200 euros, ça peut être vraiment un accessoire pour la console. Et il y a des gens qui diraient, mais à quoi ça sert ? Quand est-ce que tu t'en sers ? Il y a plein de gens qui utilisent leur Switch ou leur Steam Deck, justement, pendant que les enfants sont en train de regarder Pat Patrouille à la télé, pendant que, tu vois, c'est là où ils vont aux toilettes, bah, ils ont leur console dans les mains, tu vas dans ton lit avant de dormir, bah, t'as ta petite console dans les mains. Plein de gens qui l'utilisent comme ça. Si c'est un accessoire qui permet de grappiller quelques sous en plus pour Sony, parce qu'ils vendent un accessoire en plus, si l'approche c'est accessoire, je comprends. Si l'approche c'est produit star, là je comprends pas, effectivement. Mais pour un accessoire, c'est un truc... Bah, on parlait de trucs de niche pour le ROG Ally, on est un petit peu dans un truc de niche là aussi. Je crois qu'il y aura des gens qui seront intéressés. D'ailleurs, Julie...
Il y aura forcément... Julie, forcément des gens intéressés.
Non, pardon, vas-y, Jordan. Je voulais faire une blague à Julie.
Non, mais... Je pense qu'effectivement, il y aura forcément des gens qui seront intéressés. Après, ça, tout va dépendre du prix. Ce sera comme le PSVR, en fait. Mais en fait, vu que le Remote Play est déjà actif sur smartphone, il me semble, je ne sais pas si vraiment on va aller mettre de l'argent là-dedans, même si oui, il y aura un intérêt, mais...
Alors, le téléphone, c'est un cas particulier. Et beaucoup de gens ont fait la remarque là-dessus, disent bah, « t'as déjà ton téléphone ». Moi, je pense qu'il y a vraiment la place pour des produits dédiés. Et l'utilisation du Remote Play sur le téléphone, je vous jure que c'est vraiment pas pratique. Quand tu l'utilises 10 minutes, tu dis « ah ouais, c'est cool quand même ». Surtout, tu as, par exemple, Backbone, voilà, pas Barebone, Backbone One, qui est la manette, c'est l'équivalent, on va dire, de Joy-Con que tu connectes à ton téléphone. Ça marche super bien, sauf que l'interface n'est pas faite pour ça, ce n'est pas un objet dédié. En plus de ça, ça pourrait être modifiable, mais quand tu lances l'application Remote Play PlayStation, si tu la quittes une seconde, bah, ça se déconnecte de ta console. Alors ça, ils peuvent le changer, ils peuvent mettre une période de grâce, mais quand même. Et puis, tu as des notifications tout le temps, c'est pas pratique pour l'orientation du truc. Et puis, si tu veux l'utiliser pendant deux secondes en tant que téléphone, t'as les manettes qui te... Je vous jure que c'est pas pratique. C'est pas... Si tu veux, tu peux l'utiliser, hein, je dis pas. Et le barebone, le backbone est vraiment bon. Mais il y a la place pour des produits dédiés. Moi, ce que je voudrais, c'est... Je veux pas des ROG Ally, des Steam Deck et des machins. Je veux une console portable, comme je le disais la semaine dernière, la taille de la 3DS ou la taille de la PSP. Pas forcément super puissante, mais ça, c'est ce que je veux. Clairement, c'est pas vers ça qu'on se dirige.
Non, là, l'écran est beaucoup plus grand, là, en plus, il me semble. Je crois qu'on parle de 8 pouces, capable d'afficher du 1080p. Donc, oui, on est plus sur la taille d'un bon Steam Deck que sur un smartphone. Ouais.
Pourquoi est-ce que les gens ne font pas ce que je veux ? Quand même frustrant. Bon. Julie, je ne te pose même pas la question. J'ai bien compris que là, ce n'est même pas la console, c'est que tu ne veux même pas entendre parler de ce truc.
Oui, là ça, je n'étais même pas au courant. Et finalement, est-ce que j'avais vraiment envie d'être au courant ?
Bon, je pense qu'il y aura un public, mais je crois que la leçon, en fait, industrie de tout ça, c'est que la PlayStation, la Switch a un tel succès que tout le monde essaye de comprendre comment répliquer le succès ou s'approprier une partie du succès d'une manière ou d'une autre. Et je crois que la vraie conclusion, c'est que contrairement à ce qu'on a pensé avec les générations précédentes où on s'est dit bah, le téléphone fait des jeux, donc y a plein de jeux qui on n'a plus besoin d'appareils portables, tout le monde s'est éloigné, la Vita s'était plantée, donc forcément ça n'a pas aidé, Nintendo a abandonné les consoles uniquement portables, donc beaucoup de gens se sont dit non, on ne veut pas de portable. Moi, je crois qu'il y a encore un moyen d'avoir une machine dédiée aux jeux vidéo portables, peut-être pas avec une plateforme complètement indépendante, mais je crois que ça existe encore comme possibilité dans l'esprit des constructeurs et comme envie dans l'esprit des joueurs. Peut-être que ça sera avec la prochaine génération de consoles que ça va se concrétiser, mais je crois que le succès... Alors la Switch, c'est particulier parce que c'est hybride, donc ça consolide les développements et la plateforme et tout, mais... Peut-être qu'il y a un moyen de faire quelque chose, peut-être avec la prochaine génération de consoles, qui nous permettra d'avoir une console, enfin une machine dédiée portable. Et je crois que ça fonctionne pas avec les machines mobiles, avec les téléphones. Ça donne pas, ça comble pas cette envie et ce besoin. D'ailleurs, on a bien vu que même Nintendo, quand ils essayent de faire autant qu'ils peuvent des jeux mobiles, bah ça marche pas. Et Miyamoto a dit oui, c'est pas une priorité pour nous à l'avenir. C'est pas la même chose. C'est juste pas la même chose. Donc, et on savait pas. Il y a quelques années, on pouvait pas être sûr. Mais maintenant, on l'a bien compris. Donc, une console portable, vraiment portable. Moi, je pense qu'il y a il y a une place pour ça. On verra. Peut-être que c'est une console portable qui fait tourner les jeux de la console. De la grosse console à la maison en moins bien. Hein. C'est peut-être ça l'architecture qu'il faut développer. Mais genre, avec la Xbox Series X, Xbox Series S, et puis il y a un équivalent, genre une Xbox Series S qui fait un truc qui peut faire tourner les jeux Xbox Series S, mais en moins performant, peut-être que ça donnerait quelque chose à terme. J'y crois. Je veux y croire.
Je pense que ça demande aussi beaucoup de ressources aux studios qui développent. Et si déjà ils ont la Xbox Series X, la S, et s'il y a derrière, par exemple, une autre console, ça va demander de développer trois versions différentes. Oui, voilà.
Non, mais
trois versions différentes, c'est compliqué.
Bah, si jamais tu as de la même manière, parce qu'ils font déjà beaucoup de cloud streaming chez Microsoft et chez Sony aussi d'ailleurs. Donc en cloud, c'est possible, mais je veux dire, si tu fais une machine qui fait littéralement tourner les jeux série S sans modification, de la même manière que le Steam Deck peut faire tourner les jeux Steam, peut-être que. Alors tu peux adapter un petit peu si tu veux, mais si ça fait tourner ça sans modification, peut-être qu'il y a un truc à faire, non ?
Pourquoi pas, ouais.
On peut toujours espérer. Je crois que c'est à peu près tout pour les news importantes. Et donc, on va passer à la partie des jeux auxquels on joue en ce moment. Après une toute petite pause, pour vous rappeler que cette émission est financée par Patreon. Patreon, patreon.com/rdvjeux. C'est les auditeurs et les auditrices qui choisissent de soutenir cette émission sur la plateforme de financer. Littéralement, d'envoyer des sous-sous à Patreon, qui ensuite me les renvoie, presque tous, beaucoup plus qu'avec les abonnements sur Twitch, par exemple, hein, je peux vous l'assurer, et qui me permet de continuer à exercer ce formidable métier de podcasteur professionnel. Oui, c'est un vrai métier, comme je l'explique aux gens que je rencontre dans la rue et à mon banquier. Je peux en vivre, et c'est grâce à vous. Donc, un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes, patreon.com/rdvjeux.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Et on parle maintenant des jeux auxquels on joue en ce moment. Avec en premier, Storyteller, qui est un jeu auquel Jordan a joué. Et tu m'en as parlé un tout petit peu hier quand on parlait de l'émission. Et bien, figure-toi que je suis allé l'acheter, moi aussi. Et j'y ai joué une petite heure. Donc, j'ai fait les trois quarts du jeu. Malheureusement, je ne plaisante pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Storyteller ?
Ouais.
Tais-toi. Pardon. Non, pas toi, je parlais à mon browser. Excuse-moi, Jordan, c'était... vas-y. Ne fais pas attention à ce que je dis, c'est une règle chez nous.
Storyteller, c'est un petit peu compliqué à présenter sans voir d'image, donc je vous invite à voir les vidéos. Pour résumer ça, on va dire que c'est un puzzle game narratif où on vous demande de reconstituer des contes simplement avec l'aide de petits personnages à placer dans des cases de BD, en fait. Tout ce qu'on va vous donner, c'est un titre du conte. Par exemple, ça peut être « Le chevalier va se marier avec la reine ». On va avoir trois cases sur lesquelles il va falloir placer trois décors différents. Et il va falloir aussi placer les personnages pour faire en sorte que leurs interactions finissent par le titre en question. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends le même exemple de chevalier se marie avec la reine, on peut avoir une scène d'enlèvement où on va avoir la reine qui est enlevée, qu'il faudra placer par exemple dans une cage. On va avoir le chevalier qui va venir la libérer, et dans la case suivante, on n'aura qu'à placer un décor mariage où les deux vont se marier. Et du coup, c'est plein de petites énigmes comme ça qui s'inspirent de contes populaires. On a par exemple du Blanche-Neige. On a aussi des choses un petit peu plus pointues comme du Hamlet, Oedipe, etc. Donc il y a vraiment plein de thèmes différents, et le but, en fait, c'est vraiment de résoudre des énigmes narrative, c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un metteur en scène, on va dire, d'une pièce de théâtre, et placer les bons personnages aux bons endroits pour faire les bonnes interactions.
C'est une assez bonne présentation, et ce que j'aime dans la manière dont tu le décris, c'est que tu commences en disant c'est un jeu de c'est un puzzle game, en fait, c'est un jeu de puzzle. Parce que moi, quand j'avais vu la démo, ou en tout cas les présentations à l'E3 dernier, ça fait un moment qu'il est présenté, le jeu, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose d'un petit peu plus original, parce qu'on a vraiment l'impression, par le titre, hein, ne serait-ce que par ça, qu'on va raconter une histoire. Et évidemment, il y a de ça dans le jeu, c'est clair, mais c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus un puzzle game classique qui se sert du fil narratif pour agencer les pièces du puzzle qu'un truc qui va te permettre de créer toi-même ta propre histoire. Ce qui est peut-être une attente un petit peu injuste pour le jeu, de ma part, mais il n'empêche que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... C'est d'un petit peu plus, je ne vais pas dire quelque chose d'un petit peu plus original parce que c'est bateau, mais plutôt quelque chose d'un petit peu plus créatif au niveau du game design. En fait, au final, ce n'est pas hyper créatif. C'est plaisant, c'est sympa, et il y a des éléments qui sont surprenants, je vais dire, un petit peu, mais ce n'est pas très original comme mécanique, j'ai trouvé. En tout cas, bon, comme je disais, j'ai fait une demi-heure, une heure. J'ai pas trouvé ça hyper original. Tu es d'accord avec moi ? Tu as été un petit peu déçu par cet aspect ?
En fait, je suis d'accord et pas d'accord parce que moi, je trouve qu'il y a plein d'idées qui fonctionnent vraiment dans le jeu. Mmh. C'est-à-dire que quand tu places des personnages dans certains types de décors, ils vont vraiment avoir des interactions qui sont hyper logiques. Et je trouve qu'il y a vraiment des situations où je me suis dit, ça, c'est vraiment intelligent, quoi. Mmh. Après, je suis d'accord avec toi dans la mesure où une fois que t'as compris le concept, que t'enchaînes, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de puzzles, tu comprends très vite comment faire le reste du jeu, en fait. Mmh. Et je trouve que la courbe de difficulté, elle est assez plate, donc c'est-à-dire que même si les puzzles deviennent de plus en plus compliqués, vu que tu as compris comment le jeu veut te faire fonctionner les puzzles, je trouve qu'il devient vraiment trop facile. Et tu l'as dit, effectivement, la durée de vie est beaucoup trop courte. Je pense que là, effectivement, tu es arrivé à la moitié du jeu, parce qu'on parle effectivement de 2 heures.
Ouais.
2 heures maximum. On va avoir des sous-puzzles à certains moments, c'est-à-dire qu'on aura un titre d'histoire à reconstituer. Une fois qu'on aura réussi cet objectif, on va nous dire de le refaire, mais avec un objectif différent. Un objectif qui est souvent plus compliqué. Donc là, ça rehausse un tout petit peu la difficulté. C'est pas non plus quelque chose qui va vous prendre... 2 heures, quoi. Enfin, c'est vraiment pour le terminer à 100%. On parle d'une cinquantaine de puzzles, c'est 2 heures montre en main et basta. Oui.
D'ailleurs, ça a frustré beaucoup de joueurs, en particulier sur Steam. Alors, c'est pas un jeu qui est cher, hein, bien sûr. Il est à 14€, je crois. Mais il y a beaucoup de gens qui se le sont fait rembourser parce qu'ils trouvaient qu'il était trop court. Il est dispo sur Switch également, mais sur Steam, on peut se faire rembourser le jeu sans que Valve nous pose de questions si on le fait avant 2 heures de jeu. Comme le jeu fait moins de 2 heures, bah... En même temps, c'est un jeu qui a été fait par une seule personne, ça lui a pris quoi, une dizaine d'années, un truc comme ça. Je ne pense pas que le jeu n'est pas plaisant. Au contraire, j'ai même passé de très bons moments pendant que j'y ai joué. Mais je trouve que... C'est-à-dire que j'espérais un truc... Tu sais, il y a plein de jeux comme... je ne sais pas, Unboxing, au hasard. C'est Unboxing qui s'appelle ? Le jeu où on range, on sort les choses. Unpacking. Il trouve un moyen dans un jeu qui est vraiment hyper basique. On va enlever des affaires de nos boîtes de déménagement, on va les arranger dans la pièce et il faut trouver les bons arrangements. A priori, tu pourrais dire, bon ben voilà, j'ai ma mécanique de gameplay, ça va pas plus loin. Eh ben, il y a une sorte de méta-narration à travers les niveaux. Qui fait qu'il y a une appréciation supplémentaire qui vient s'installer au-dessus de la simple mécanique de jeu. Et il y a plein de jeux dont on pourrait parler qui ont ce type de « bah oui, mais il y a un petit truc en plus, il y a une petite étincelle, il y a un petit… » Même si ce n'est pas les meilleurs jeux de l'histoire, c'est des trucs où tu te dis « ok, ça va un peu plus loin que juste la bonne idée de gameplay. » Là, il n'y a que la bonne idée de gameplay. Et c'est pour ça que ça m'a, au final, enfin, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai lu, tout le monde a l'air à peu près d'accord, ça m'a un petit peu déçu. Maintenant, cette bonne idée de gameplay, elle est cool. Les réactions, quand tu arranges mal les histoires, les réactions des personnages qui disent « mais attends, qu'est-ce que je fous là ?» ou « pourquoi est-ce que je suis là à tel endroit ?» ou « pourquoi ?» C'est plaisant. Mais ça ne va pas aussi loin que je l'aurais espéré, quoi.
En fait, tu aurais espéré qu'il y aurait une sorte de fil rouge, c'est ça ?
Même pas forcément un fil rouge, mais je sais pas, quelque chose de plus, quelque chose qui est un petit trait de génie du game developer, du game designer, qui soit pas juste, bah oui, c'est ce que je disais, qui soit pas juste sa bonne idée. Il y a tellement de bons jeux qu'aujourd'hui, une simple bonne idée, ça suffit pas. Il faut que tu la travailles, que tu la développes, que tu la trouves un truc en plus pour que les joueurs se disent « ah ouais, là, j'ai apprécié le truc à un autre niveau ». Je crois, surtout pour un petit jeu indé comme ça, c'est pas les fans de Call of Duty qui vont aller jouer à Storyteller. C'est un truc où il faut une étincelle en plus.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi.
Une narration, tu vois, en plus. Et c'est vrai, accessoirement, ce que tu dis est vrai aussi, accessoirement, il n'y a même pas de fil rouge. C'est juste une série de puzzles déconnectés les uns des autres, quoi.
Oui, alors juste pour préciser, effectivement, en fait, le jeu est découpé en chapitres. Mmh. Chaque chapitre contient 4 puzzles et chaque chapitre a un thème particulier. On peut avoir le thème
oui,
de
mais
la
c'est
mort.
Pas que tu suis les personnages du début à la fin de l'histoire, par exemple.
C'est vraiment, chaque fois, on prend des personnages différents. Enfin, même si c'est les mêmes, ils n'ont pas de personnalité à proprement parler, sauf quelques-uns qu'on ne peut pas vraiment placer à certains endroits. Et oui, c'est chaque chapitre est séparé. Faut vraiment prendre comme un truc assez assez mécanique en fait au final. Mmh. Effectivement, ça porte un peu mal son nom, on peut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de narration là-dedans. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, oui, le jeu reste plaisant et si vous l'avez apprécié, et même s'il a duré 2 heures, je trouve que c'est dommage de se le faire rembourser sur Steam, personnellement.
Ah non, évidemment, non. Enfin, ça, c'est carrément... c'est plus que dommage, c'est malhonnête. Je trouve que c'est évidemment à ne pas faire. Et j'irais même au-delà. Je trouve que le jeu est plutôt sympa. Et dans un monde où il n'y avait pas 40 000 jeux incroyables qui sortaient par jour, ça aurait même pu être un jeu dont j'applaudissais l'originalité, et le fun et le plaisir et tout ça. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il y a 12 millions de jeux qui sont encore mieux, quoi. Donc,
Oui, je suis d'accord. Ouais. Et le problème, c'est qu'effectivement, on dit que le jeu est trop court. Je pense pas qu'il aurait pu le rallonger plus que ça, parce que, comme je te dis, on devine les ficelles très vite. Les ressorts narratifs de chaque scène, on les devine. Au bout d'un moment, au bout de 2 heures, on a compris ce qu'il faut faire. Je suis pas sûr que rajouter beaucoup de puzzles derrière aurait permis d'améliorer le jeu.
Ouais.
Donc c'est vraiment un jeu qu'on peut apprécier, je pense, en une ou deux fois. Moi, je conseillerais plutôt de le faire en deux fois. 2 sessions d'une heure, je pense que c'est très bien. Et peut-être même avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aussi. Mmh. Les jeux vidéo, je pense que c'est très bien. Que ce soit avec des enfants ou avec des gens de la famille qui n'ont pas l'habitude de jouer, je pense que c'est un bon jeu pour les mettre dedans. Ouais.
À vrai dire, tu dis ça et ça me fait penser à une autre marque, un autre truc qui m'a frappé en y jouant, c'est à quel point, au niveau de l'interface, c'est ça, pour le coup, c'est super bien fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'explication de quoi que ce soit, ni des mécaniques de jeu, ni des boutons sur lesquels appuyer, ni rien du tout. Il t'apprend tout le jeu, qui est simple, hein, c'est pas non plus un truc hyper complexe, mais il t'apprend tout le jeu sans à aucun moment te mettre du texte. J'exagère. Il y a évidemment du texte ici et là, mais un petit peu. Mais je veux dire, il n'y a pas le texte au sens traditionnel où on te dit « appuie là pour placer un personnage, là tu dois construire une histoire en mettant les panneaux les uns à la suite des autres ». C'est juste, il te le montre et tu comprends. Ça, c'est quand même assez bien foutu, j'avoue. Mais...
Ouais, pour expliquer un petit peu, en fait, c'est comme si on mettait des rouages dans un mécanisme. C'est-à-dire qu'en bas de l'écran, on aura le décor et les personnages. Au-dessus, on aura les cases, une case de BD, en fait, enfin, comme une BD, et on va devoir glisser nous-mêmes les décors, puis placer les personnages. Et les personnages auront des réactions
en fonction des décors sur lesquels ils sont, mais aussi en fonction de la case où ils sont. C'est-à-dire que si on met une scène de quelqu'un qui est mort sur la première case, et qu'on replace le personnage dans une autre scène plus tard, il apparaîtra en tant que fantôme, par exemple. Ouais. Et c'est plein de petites bonnes idées comme ça qui sont bien trouvées, je trouve.
En t'entendant dire ça, je me rends compte que je suis peut-être un peu dur avec ce jeu.
je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a un potentiel qui est peut-être un petit peu gâché parce qu'il n'y a pas plus que la mécanique de base. Mais si vous avez 14 euros, peut-être même 19 euros, je crois, sur Switch, mettre dans un jeu qui vous prendra pas beaucoup de temps et qui vous prendra pas la tête, parce qu'il faut dire aussi que les jeux de 2 heures, c'est rare. Personnellement, ça me fait du bien. Je pense que oui, c'est un bon petit puzzle game qui vous marquera peut-être pas beaucoup, mais qui fait passer un bon moment.
Bonne conclusion. On lui dit dans la chatroom, c'est un bon jeu Game Pass en vrai. Bah oui, complètement. C'est ouais, sur le Game Pass, on aurait tout sauté de joie, quoi. Donc voilà pour Storyteller, qui est disponible sur Steam et sur Switch. Est-ce qu'il y a un autre jeu auquel tu as joué récemment, Jordan, ou on passe à...
Pas de jeu récent, j'avoue. Je suis plongé dans Star Wars Jedi Fallen Order pour préparer l'arrivée de Survivor, donc un peu coincé avec ça.
Très bien. Écoute, on attendra avec impatience. C'est quand déjà Survivor ?
C'est le 28 avril.
Déjà ?
Ça arrive, ouais.
Ah mon Dieu ! Ok, j'avais complètement oublié ça. D'accord. Bon, bah écoute, Survivor le 28 avril, très bien. Et tu fais tes devoirs, j'apprécie beaucoup, Jordan. Julie, tu as joué, toi, notamment, alors tu nous disais à World of Warcraft, mais aussi à Diablo 4, à la bêta. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière et celle d'avant de la bêta, mais qu'en as-tu pensé de Diablo 4 ?
J'ai eu un avis assez mitigé, pour être honnête. D'un côté, j'étais hyper contente de retrouver Diablo et de pouvoir y rejouer. Et comme je suis assez fan de la licence, ça m'a fait un bien fou, honnêtement. Je trouve qu'il révolutionne pas non plus de dingue les Diablos. Mm-hmm. Ça reste assez classique. Après, j'ai vu que t'en parlais plus tard, mais j'attends vraiment de voir le endgame plus particulièrement parce que les joueurs de Diablo savent que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. La partie, le début, qui est très narratif, avec beaucoup de cinématiques. On espère le passer le plus rapidement possible pour arriver au endgame et vraiment bien farmé, quoi. Mais après, il claque quand même, hein. Il est très bien. La cinématique de début, ça fait je sais pas combien de fois que je la vois, mais
ouais.
Qu'est-ce qu'elle est belle.
Tu parles de celle avec Lily, quand ils invoquent Lilith, ouais. Ou celle quand il y a... Ouais, ouais, Inarius qui s'énerve. Non, Lilith, oui.
L'invocation de Lilith, elle a vraiment la toute première cinématique. Elle est incroyable. Quoi. Ça donne des frissons quand on lance le jeu. mais du coup, ouais, j'ai passé un excellent moment. J'y jouerai quand il sortira, bien sûr. Parce que ça reste Diablo. Mais il n'est pas non plus, en tout cas de ce que j'ai vu pendant la bêta, révolutionnaire. Quoi.
Ah bah clairement, comme on le dit depuis 2-3 semaines maintenant, c'est Dark Diablo 3, quoi. On est complètement sur le... Alors justement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, il y a une vidéo de présentation du Endgame, qui est une grosse interrogation sur le jeu. La vidéo a été publiée par Blizzard, et elle détaille un petit peu les activités Endgame. Il y avait des préoccupations sur la personnalisation des personnages, sur l'aléatoire des activités Endgame, qui est-ce qu'elle fournirait suffisamment de variété pour être plaisante à refaire et à refaire des milliers de fois. Ce qu'il détaille sur le système de Paragon a l'air quand même particulièrement... on n'est pas sûr du Path of Exile, mais on n'est clairement pas... Enfin, limite, on se demande si on n'est pas sur un petit peu du Path of Exile, tellement ça a l'air complexe avec tous les différents morceaux de trucs qu'on peut ajouter à notre spécialisation, avec des centaines de points différents. Et on a aussi l'aléatoire... Enfin, il y a des donjons à conquérir pour obtenir des aspects qui vont vous permettre de personnaliser vos armes et votre façon de jouer. Et on peut se dire, les donjons, ils sont déjà préfaits, et donc, c'est pas aussi fun que d'avoir des donjons aléatoires. C'est vrai, mais il y en a quand même plus de 100 au lancement. Il y en a 120, je crois. Ils en rajouteront avec les saisons, tout ça. Et ces donjons prennent pas tout à fait la forme des failles de Diablo 3, mais ils peuvent être... Leurs rencontres et les événements dans le donjon peuvent être randomisés. Je ne doute pas qu'il y aura des gens qui vont dire « Bon ben voilà, vous faites ce donjon spécifique en boucle et c'est le donjon le plus rapide parce que vous gagnez 10 secondes par rapport à l'autre donjon si vous le faites avec ce... » Mais bon, ça c'est le jeu, c'est Diablo, c'est comme ça. Mais ça m'a donné un petit peu plus de... comment dire d'espoir pour que le endgame, l'absence de variété du endgame ne soit pas un problème parce qu'il y a en fait des trucs comme des événements spéciaux qui ont lieu dans un donjon de manière aléatoire... Qui vont changer un petit peu l'expérience qu'on a dans le donjon, ce genre de choses. Et puis, il y en a quand même 120, 100, 130. Donc, en plus, avec la variété, je me dis, OK, pourquoi pas ? J'attends quand même de voir, mais je me dis, pourquoi pas ? Donc, cette vidéo sur le endgame m'a, je dirais, rassuré quand même. Allez, rassuré, c'est pas complètement gagné, mais je dirais quand même rassuré.
Non, mais clairement, enfin, moi, la partie du coup donjon et même la qui est personnalisation, j'adore. Par contre, honnêtement, la partie personnalisation du personnage, plus au niveau des stats, avec des glyphes, etc., moi, c'est quelque chose, je m'en fous complet. Parce que la vérité, c'est que je vais voir un guide sur Internet et je fais ce que le guide me dit. Et voilà, et je pense vraiment pas être la seule des joueuses à faire ça. Je pense qu'on est énormément à faire ça. Et du coup, j'ai plus tendance à préférer des systèmes simplifiés à ce niveau-là, où vraiment on peut facilement s'y intéresser. Parce que je trouve que plus c'est complexe, plus on a tendance à juste aller voir sur Internet des guides et les suivre. Alors... Donc ouais, cette partie-là, je m'en fiche un peu. Mais tout le reste, les donjons, les événements randomisés, ça, c'est ce qui me parle le plus, quoi.
Je dois dire que tu parles un peu à mon cœur, Julie, là, parce que quand les gens parlent de Path of Exile avec sa galaxie de points en plus, ça me... En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu une minorité vocale qui dit « Non, mais il faut plus personnaliser, il faut plus machin, il faut plus... » Surtout que ça peut passer par plein de trucs, la personnalisation dans Diablo, oui. Ça a l'air d'être beaucoup avec les objets aussi, et les trucs que tu chasses et que tu essayes de choper, etc. C'était déjà le cas dans Diablo 3. Mais les galaxies de points à rajouter qui vont donner plus 0,2% en coût critique, que tu vas devoir cliquer 5 fois sur le truc pour avoir plus 1% et que ça commence à t'affecter à plus 5%, ça m'a jamais vraiment motivé, quoi.
Donc, j'ai vu à POE, honnêtement, j'étais tout le temps en train de consulter des guides. Mais en fait, c'est qu'on n'assume pas souvent d'être un peu des noobs qui allons voir tout sur Internet. Et la vérité, c'est que je pense que 80%, voire plus des joueurs,
c'est clair.
On fait ça, quoi.
C'est clair, c'est clair. En gros, les gens qui n'exploitent pas les guildes, et encore, c'est genre les créateurs de contenu qui créent les guildes et qui vont te faire les vidéos YouTube t'expliquant ton build.
Ouais, ouais.
Et c'est tout. Mmh. Bon, donc, malgré tout, moi, je suis... Alors, clairement, j'étais convaincu par la bêta quand j'y ai joué. Je suis encore un petit peu plus curieux de voir le endgame avec cette vidéo sur le endgame qu'ils ont publiée. C'était un petit peu pour rassurer les gens aussi, je pense. Il y avait des leaks, visiblement, on en parlait sur le Discord, des leaks qui détaillaient un petit peu les activités endgame. Donc là, ils ont sans doute décidé de mettre les choses au clair. De toute façon, ça devait arriver un moment parce que le jeu sort dans quoi, 2 mois. On en reparlera, évidemment, à ce moment. Et donc, l'autre question que je te pose, tu as joué à World... Tu t'es mise à World of Warcraft, du coup, en 2023 ou déjà peut-être 2022.
Décembre 2022.
D'accord. Un petit peu en retard par rapport au gros des joueurs, hein, quand même.
Un petit peu.
Un poil mais derrière la vague.
C'est vrai que moi, je suis une grande joueuse de MMO. J'adore les MMO, mais je m'étais toujours refusée de jouer à WoW parce que déjà, j'avais peur pour ma vie sociale. Et le
contrairement aux autres MMO.
Oui, bah, en vrai, c'est cher, World of Warcraft aussi. Et ça, me dérangeait de fou. Et ouais, le prix aussi, ouais, le prix vraiment. Et d'ailleurs, je le trouve toujours trop cher aujourd'hui. Hein, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis plus étudiante et que j'ai les moyens de me le payer. mais je trouve que ça reste un jeu qui est très cher. Et du coup, je m'y suis mise avec l'extension Dragonflight. Par contre, je ne peux jouer à aucune autre extension parce que je trouve le jeu trop moche. Je suis désolée pour les fans de WoW, mais je trouve que dans les autres extensions, le jeu est vraiment moche et j'y arrive pas. Mais par contre, non, ouais, Dragonflight, les mécaniques de vol, j'adore. J'ai découvert le plaisir de faire les raids et j'adore ça. Les donjons, pareil. Non, vraiment, le jeu est, je trouve, mécaniquement excellent. Et pourtant, vraiment, j'étais le genre de personne qui disait « Ah non, WoW, c'est de la merde, de toute façon, c'est pas très dynamique. » Et en fait, il fallait trouver la classe dynamique qui convient et pas jouer mage ou des sorts à
casse.
Donc
tu joues un... C'est quoi ? C'est un invoker en français, invocateur, invoker ?
Non, moi je joue Rodeur. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, j'ai Beastmaster avec la spécialité. Avec
donc chasseur, oui, d'accord.
Ouais, chasseur, c'est ça. D'accord. Je dis Rodeur parce qu'en ce moment je suis en train de me faire une campagne D&D et du coup j'ai l'habitude des noms de Donjons et Dragons. Mais du coup, maintenant j'ai accroché de fou et j'y ai passé beaucoup trop d'heures récemment. et maintenant je fais partie de la team qui dit que World of Warcraft est un bon jeu.
Ah bah écoute. Tu vois, je ne vais pas te faire dire le contraire, mais surtout en tant qu'ancien de Blizzard, même si j'ai mes problèmes avec la boîte aujourd'hui. J'imagine que ça fait un petit peu partie de Competitive Research aussi, pour savoir à quoi ça ressemble, vu qu'on sait que Riot travaille sur son MMO également.
Mes boss, je fais du Competitive Research.
Mais oui, c'est ça. Tu sais que nous, on faisait ça quand j'étais à Blizzard. On jouait à des jeux qui sortaient, surtout que c'était la période où il y avait tout, c'était il y a longtemps, donc c'est la période où toutes les boîtes sortaient leur MMO, et au bout d'un moment, notre manager est venu nous voir et nous a dit « Bon les gars, on va commencer à se calmer un peu là, parce que ça fait beaucoup de... » Mais Competitive Research
bon. Oui, on travaille.
Ouais. Ça n'a pas pris. Mais du coup, surtout, en fait, la chose que je veux savoir, c'est pour les gens qui ont déjà ou qui jouent à WoW depuis longtemps, l'idée d'y faire venir quelqu'un qui n'a jamais joué, on se dit que ça peut être intimidant parce qu'il y a tellement à voir et à connaître dans le jeu que c'est peut-être pas facile d'y venir maintenant. D'un autre côté, quand tu prends une nouvelle extension, c'est une expérience de débutant dès le début. Tu connais les MMO, tu connais les jeux, donc tu as quand même une familiarité avec les systèmes en général. Mais ça s'est passé comment, en fait, cette première approche avec WoW, 15 ans après la sortie ? 20 ans ? Presque 20 ans, putain.
Déjà, j'ai dû jouer, avant d'aller sur Dragonflight, du coup, j'ai dû jouer sur d'autres extensions, vu qu'il fallait être, je crois, niveau 50 ou 60 pour accéder à Dragonflight. Donc, je suis arrivée quand même avec des connaissances en MMO, donc pas non plus totalement perdue. L'erreur que j'ai faite, c'est que moi, dans les MMO, j'ai tendance à vouloir terminer toutes les quêtes qu'il y a sur une map. Genre vraiment, toutes les quêtes secondaires, quêtes principales. Et donc, je commençais à faire toutes les quêtes secondaires et il y avait mes potes qui me disaient « Non mais Julie, faut que tu skips les quêtes, tu peux pas toutes les faire, c'est pas possible. » J'ai dit « Non, je veux que la map, elle soit clean, qu'il n'y ait pas un seul point d'interrogation dessus et je veux jusqu'au bout. » Et bon, au bout d'un moment, j'ai dû prendre sur moi et me dire « Il faut pas que je fasse toutes les quêtes secondaires, ça va aller. » Mais parce qu'il y a tellement de quêtes, en fait, c'est vraiment dingue, quoi. Et dès que t'arrives sur une zone, tu fais une quête, ça t'en débloque une vingtaine d'autres. Enfin, il faut accepter le fait de ne pas pouvoir clean totalement une map. Et ça a été le plus difficile pour moi.
Choisir, c'est renoncer. Donc tu as dû renoncer à tout faire, je comprends.
Le jeu, sinon, en vrai, était assez accessible. Je ne l'ai pas trouvé très compliqué, peut-être parce que j'ai de l'expérience MMO. Mais au final, reste un MMO, je pense, assez basique. Les quêtes sont au début assez simples. T'es quand même assez bien guidé. Les sorts sont pas non plus trop durs, trop compliqués à comprendre. Donc, c'était assez facile d'accès, honnêtement.
D'accord. Bon, écoute, bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent convertir leurs amis. Vous pouvez leur dire que WoW, en fait, c'est pas si dur que ça, même si on commence. En même temps, est-ce qu'il reste vraiment des gens qui n'ont pas joué à WoW ? En même temps, il y a aussi des gens qui n'avaient pas l'âge de jouer à WoW quand il est sorti, qui aujourd'hui vont peut-être... c'est comme League of Legends, en fait. Tu peux renouveler le public avec les gens qui sont suffisamment âgés aujourd'hui.
League of Legends, c'est moins accessible que WoW, je pense.
Au sort de tri, c'est vrai aussi. Super, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai joué, comme je le disais, à Storyteller. J'ai aussi acheté mon nouveau moniteur. Ça faisait des années que je lorgnais sur des moniteurs incurvés 34 pouces. Donc, moniteur plus grand. En fait, j'avais deux CD27 pour travailler, et ça faisait 3 ans que j'avais budgété l'achat d'un moniteur 34 pouces, et j'arrivais pas à trouver le bon. Et j'ai finalement réussi à en trouver un qui correspondait à ce que je voulais. C'est un moniteur OLED Alienware que mon ami Dani, qui travaille chez Dell, a catégoriquement refusé de m'envoyer gratuitement, malgré mes supplications et mes menaces. Et c'est le AW3423DWF. Attention, le F est important parce que c'est un modèle qui est un peu plus récent, qui n'est pas G-Sync Ultimate, mais qui est FreeSync, ce qui fait en gros à 99% la même chose, mais qui a quelques petites différences. Je vous laisserai aller voir. Je vais mettre dans la newsletter la vidéo de comparaison, dans la newsletter des Patriotes, la vidéo de comparaison des moniteurs qui a fini par me convaincre de prendre celle-là. Mais en gros, il est un peu moins cher. Le firmware peut être upgradé par les utilisateurs, et alors que ce n'est pas le cas avec la version G-Sync. Il y a quelques désavantages, surtout si on a une carte graphique AMD, ironiquement, pour la gestion du HDR. Avec une carte Nvidia, ça se passe un petit peu mieux. Et puis, ça va peut-être être mis à jour par firmware. Mais surtout, il n'a pas de ventilateur, enfin un ventilateur qu'on n'entend pas du tout, alors que ce n'est pas le cas de la version G-Sync. Donc, moi, j'ai choisi la version AW3423. Donc, AW, c'est Alienware 34 pouces 23 pour 2023. DW, je ne sais pas. Et F, c'est la version plus récente. Donc, les noms de moniteurs, merci. Mais en tout cas, je dois avouer... Alors, en plus, j'ai encore les deux 27 pouces. J'en ai mis un au-dessus, un à côté. Je vais en virer un parce que ça fait vraiment cockpit d'avion. Mais c'est tellement... Alors, pour jouer, évidemment... je vais parler pour jouer après. Pour la création de contenu, en particulier sur Steam, j'ai maintenant des fenêtres où je suis à l'aise. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est agréable. Alors, avec 2,27 pouces, on pourrait se dire « Non, mais ça va quand même, 2,27 pouces, ça suffit. » Oui, mais moyen en même temps, parce que je dois avoir les fenêtres des gens sur Discord avec la vidéo, je dois avoir les... Enfin bref, c'est super pratique, on a la place, la résolution est bonne. Vraiment, c'est super pratique pour la productivité, je trouve, alors que ce n'est pas pour ça qu'il est fait. Il est surtout fait pour la vidéo et le gaming. Et donc, pour le gaming, l'ultra-wide, c'est vrai que c'est sympa. Je ne vais pas faire comme certains qui vous disent, c'est le... Et je suis sûr qu'on en reparlera avec d'autres aficionados de PC, mais il y a des gens qui vous disent, l'ultra-wide, c'est la vie. Une fois que tu as touché, tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus regarder un bête moniteur en 16/9 qui te fait mal aux yeux par sa paysannerie, tellement c'est pedestrian, comme on dit en français. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et la plupart des jeux aujourd'hui, ils prennent en charge l'ultra-wide. Ils ne prennent pas forcément en charge le super ultra-wide qui existe aussi, qui fait genre 2 moniteurs 16/9 côte à côte. Faut pas abuser non plus. Mais déjà, en ultra-wide, c'est sympa. Et c'est tout bête. Hein, tu as simplement le champ de vision qui est plus occupé sur les côtés. Et donc, c'est un peu plus immersif. C'est cool. Donc, moi, je dirais, si vous êtes un joueur, alors si c'est pour le boulot, vous pouvez vous le permettre. Si vous êtes un joueur vraiment assidu, vous pouvez vous investir là-dedans. Tous les gens à qui j'ai parlé qui ont un 34 pouces incurvé en sont contents, tous les joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il faut une carte graphique correcte aussi parce qu'il y a beaucoup plus de pixels à rendre. Donc ça joue également. Mais il y a aussi beaucoup de jeux aujourd'hui qui n'ont pas forcément besoin d'une carte graphique démentielle pour tourner. Et donc, ça peut même, sur une carte graphique correcte, on va dire, il faut au minimum une carte graphique correcte. Mais si vous êtes un joueur qui considère un moniteur 34 pouces, je pense que vous avez une carte graphique correcte. Sinon, commencez par une carte graphique correcte, on va dire. Vous êtes aussi sur des 34 pouces incurvés OLED. Oh, les noirs sur l'OLED. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bref, vous êtes là-dessus ou vous êtes sur des bêtes moniteurs 16/9 que je regarde avec dédain maintenant que je fais partie du club des 34 pouces incurvés?
Tu vas me juger très fort, moi, parce que je suis sur un ordi portable avec une tablette en tant que deuxième écran. Donc, je suis très loin de toi.
Jordan, t'as de la chance d'être sympa. Parce que vraiment, là, il y a des limites dans cette émission. On a des standards. Non, mais t'es un joueur console, surtout, c'est pour ça.
Oui.
Bon, ok, du coup, oui. Mon regard inquisiteur se porte sur Julie.
Alors, moi, je n'ai pas d'écran comme ça. J'ai deux écrans 16-9. Il y en a un qui est quand même incurvé, donc c'est pas si mal que ça. Mais non, j'adorerais avoir un écran comme ça, mais j'ai du mal à verser la somme.
Ouais, alors le mien, il m'a coûté un bon millier d'euros quand même. Ouais. C'est pas donné.
C'est cher. Parce qu'à ce prix-là, 1000 balles, tu te fais un bon PC aussi quand même. Hein. Bon, un petit peu plus que 1000 balles, mais...
Je me justifie ça moi-même en disant que c'est pour le boulot, tu vois.
C'est comme moi quand je joue à World of Warcraft.
Exactement. Competitive Research. Comment puis-je parler de jeu PC si je ne comprends pas ce que ça fait d'avoir un moniteur ultra-wide? C'est pas possible.
C'est vrai. Je suis d'accord.
Bon, je suis quand même très content. Mais c'est vrai que c'est pratique pour le jeu. C'est aussi pratique, mine de rien, d'avoir cette taille pour la création de contenu, comme je le disais. Je sens une vraie différence. Et je suis... alors, attends. C'est quoi, 34% de plus? Je suis 34% plus productif. Je vais dire ça comme ça. 34% plus productif. C'est presque le bénéfice d'une IA générative, quasiment. Donc voilà pour nos petits jeux et nos petites activités du moment. On va passer maintenant à la fin de l'émission avec le reste de l'actu et les news sur lesquelles on passe rapidement. La première, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Nintendo a finalement accepté, suite à la plainte de l'UFC Que Choisir, de réparer les Joy-Con qui driftent, quelle que soit la durée, l'âge du Joy-Con. En gros, ils sont maintenant obligés de réparer les Joy-Con si on a du drift sur la manette. Pour ceux qui ne savent pas, le drift, c'est la manette, le joystick, qui finit par appuyer sur la droite ou la gauche tout seul. À force d'être utilisé, il y a une usure qui se fait. Et du coup, c'est un truc qui marche moins bien, évidemment, parce que votre bonhomme se déplace tout seul à l'écran. Bonne nouvelle, le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est l'UFC Que Choisir qui parle d'obsolescence programmée. Était-ce vraiment nécessaire de faire penser aux gens que Nintendo faisait volontairement des manettes qui marchent moins bien, alors que toutes les manettes ont... C'est un problème de miniaturisation de l'électronique. Toutes les manettes ont ce problème à des échelles plus ou moins grandes. Nintendo a corrigé dans les designs autant qu'il pouvait le truc. Il y a des moyens de faire des manettes maintenant qui n'ont plus ce problème. Faudra changer complètement de design, mais en gros, bon, l'obsolescence programmée, je pense que c'est une idée qui est trompeuse. Mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire, clairement, pour les consommateurs, menée par l'UFC Que Choisir. Alors que Nintendo aurait bien voulu vous faire payer vos réparations ou vous faire acheter des Joy-Con en plus plutôt que devoir les réparer pour vous. Donc, bonne nouvelle. Vous avez eu du drift sur vos Joy-Con ? Moi, j'en ai pas eu, heureusement.
Alors, moi, j'ai eu de la chance, je n'en ai jamais eu. Par contre, il me semblait que c'était déjà actif, cette réparation en France, depuis quelques temps.
Alors...
Et moi, il me semble que cette réparation, juste, elle s'est étendue à plusieurs pays d'Europe maintenant. Il me semble à la Suisse... au Royaume-Uni aussi, mais il me semble qu'en France, il y avait déjà quelque chose. Mais je dis peut-être des bêtises, mais...
Peut-être qu'ils étaient... En tout cas, l'UFC Que Choisir a expliqué ça en grosse victoire nouvelle, parce que Nintendo l'a reconnu, en fait. Ils ont arrêté...
Comme ils l'ont reconnu devant la Commission européenne, je crois.
C'est ça.
Mais il me semble que dans plusieurs pays, il y avait déjà des mesures.
Ah, donc en France,
et
c'était...
Je crois que ça s'est étendu. J'ai peut-être une bêtise, mais il me semble que là, surtout, ça concerne sur les autres pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, il me semble, et puis peut-être d'autres.
Bah, la Commission européenne, je ne sais pas si ça concerne le Royaume-Uni, peut-être qu'ils ont fait d'une pierre deux coups chez Nintendo. Ah, c'est possible. Ouais. Ok, donc news pourrie, en fait, on s'en fout. non, mais on a des auditeurs de partout. Donc, pour vous aussi bénéficiez de la force de l'UFC Que Choisir. Vous avez vu la nouvelle update de Cyberpunk 2077 qui tourne avec une RTX, c'est la 4090 ? Oui, c'est ça, une RTX 4090 avec DLSS 3 et le ray tracing maximum, elle tourne à 131 FPS. Si on enlève le DLSS, elle tourne à 16 FPS. Du coup, ça veut dire, alors si on a un petit peu l'esprit chagrin, Ça veut dire que si on n'a pas de DLSS 3.0, enfin, en gros, votre carte graphique, elle fait tourner le truc à 16 FPS. Carte graphique à quoi ? Elle doit coûter 14 000 euros, je crois, celle-là, à peu près. Une 4090, pardon. C'est marrant parce que, en fait, ce que ça veut dire, c'est du Ray Tracing Direct Illumination, RTX Direct Illumination, qui change un petit peu l'aspect. Bon, c'est un peu plus beau. Il faut vraiment avoir les comparatifs l'un à côté de l'autre pour le voir. Ce qui est marrant, c'est que ce que ça veut dire, c'est que le DLSS qui fait par intelligence artificielle un upscale d'un truc calculé à résolution moindre et à fréquence d'affichage moindre, eh ben ça devient nécessaire pour faire tourner le plus haut résultat, pour avoir le plus haut résultat possible, la plus grosse qualité possible. Et c'est juste que c'est une technologie de plus qui va nous permettre de tirer plus de nos cartes graphiques. Et j'imagine qu'à terme, bah, ce genre de technologie d'upscaling et de rajout de frames bah, fera juste partie de toutes les cartes graphiques. Et voilà, c'est un truc en plus, mais ça m'a fait marrer de voir des gens qui disent « Ah, mais du coup, ta carte graphique, elle fait que tourner qu'à 16 FPS ?» Ah non, fait aussi ta carte graphique, elle fait de l'LSS 3, donc elle fait tourner à 110 ou 115, ce que c'est. Donc...
C'était très bizarre de la façon dont on s'est communiqué, je trouve. Je pense pas que c'était forcément une bonne idée de mettre une comparaison avant-après quand le avant est vraiment lamentable, je trouve.
Ouais. Tu trouves que s'ils avaient mis genre, allez, tu peux tourner à 35 sans DLSS et 120 avec...
Oui, non, mais, bah déjà, je trouve ça un petit peu limite, mais je trouve qu'ils auraient dû se contenter de regarder avec le DLSS comment le jeu est plus beau, etc. Et moi qui ne suis pas un joueur PC, de voir qu'avec une 4090, ça tournait à moins de 20 FPS, je suis assez estomaqué, j'avoue.
Bah, c'est une technologie qui nécessite une puissance folle. C'est le RTX Direct Illumination, donc c'est un mode de ray tracing qui est tellement gourmand en puissance que ça devrait tourner sur aucune carte. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est que c'est trop... demandeur en puissance, ça ne tourne pas sur les cartes graphiques actuelles. Sauf que le DLSS 3.0, c'est un court-circuit qui fait que sur cette carte, ça réussit à faire tourner ce truc. Parce que tu pourrais aussi faire pousser les potards tellement haut que ça ne tourne pas, même avec DLSS, que ça tourne en 1 FPS sur la carte graphique la plus puissante du monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être mal présenté en même temps, effectivement. Comprends que ça fasse.
Oui, non, mais je vois. Et puis, il me semble que du coup, là, le ray tracing, c'est vraiment. Parce qu'avant, on avait du ray tracing qui était partiel, si j'ai bien compris, sur quelques flaques, quelques éclairages. Et maintenant, c'est vraiment partout, sur les murs, etc. C'est ça ?
Ouais. Alors, tu sais, c'est un moyen marketing pour dire ça, c'est du meilleur ray tracing que l'autre. Il est comme ci et comme ça. Alors, oui, c'est vrai, c'est mieux. Mais comme je disais, franchement, pour voir la différence, il faut vraiment avoir les images de l'une à côté de l'autre. Quoi. Mais bon. Julie, ta carte 4090, je suis sûr, est dans. Pour jouer à WoW, t'auras bien besoin de ça, donc surveille les bonnes affaires.
Bien sûr, bien sûr.
Quoi d'autre ? No Man's Sky, encore des updates. Je vais le mettre dans les jeux que je devrais réessayer, moi. Ça doit faire 5 ans que je n'ai pas joué à No Man's Sky. Il y a encore des updates, des nouvelles updates sur ce jeu. Il faut que j'y rejette un coup d'œil, quoi. Vraiment, il est tellement beau, il est en VR, il est en tu peux tout faire, t'as une vraie... Enfin, il faut que je réessaye le jeu. On dit ça tous les ans à chaque fois. Enfin, tous les quelques mois quand il y a une update, mais je dois y rejeter un coup d'œil.
Tu vois, je suis exactement comme toi. Je l'ai testé le jeu à la sortie. Mmh. Et profondément déçu, je pense, comme beaucoup de monde à l'époque. Et quand je vois toutes les mises à jour, tout le soin qui a été apporté, c'est vrai que ça donne envie de le relancer, mais c'est presque devenu un petit peu comme Warcraft au final. Le jeu est devenu tellement immense que ça me fait peur de me lancer là-dedans, quoi.
C'est vrai, c'est un peu le surtout que l'ambition du jeu est tellement énorme. Tu dis, explorer tout l'univers, toutes les planètes. J'ai l'impression que je sais même pas. Alors, il y a visiblement une expérience solo qui est plus solide, mais c'est ça qu'il faudrait voir parce que je sais même pas par où commencer. Tu arrives sur une planète. C'est un petit peu un jeu de survie, et puis tu peux aller dans l'espace, et puis tu... Faudrait tester, quoi. Overwatch 2, la nouvelle saison arrive le 11 avril, et on a eu une présentation du nouveau personnage, Lifegiver, Vital, en français. Personnage soutien qui a l'air assez compliqué à jouer, qui soigne pas énormément et qui fait plein de trucs bizarres, genre des plateformes, qu'est-ce qu'il fait ? Il se téléporte un peu, enfin des plateformes qu'il pose sur le sol et quand quelqu'un marche dessus, ça l'envoie en l'air, enfin sur la plateforme. Ça a l'air intéressant comme mécanique. Il peut attirer une personne vers lui, genre un allié, il va l'attraper et l'attirer vers lui. On imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont troller avec ça, un petit peu comme avec le mur de May. T'es un peu joueuse d'Overwatch 2, Julie ? Tu soutiens ?
Bah, moi, je ne suis pas très support sur Overwatch. Je trouve que c'est horrible de jouer support parce que tu te fais target tellement par le joueur en face que ça en devient très, très frustrant.
Je témoigne. effectivement, j'avoue que tu es un peu la cible de tout le monde.
Je préfère être un tank et comme ça je me dis vas-y quand même si je me fais targeter c'est bon je peux tenir au moins plus de 10 secondes. Mais après j'admire les gens qui jouent support sur Overwatch parce que je pense que c'est un rôle qui est hyper difficile de par le fait que tu te fais vraiment salement target. Donc faut réussir à vraiment bien se positionner, à regarder partout, être au courant de tout ce qui se passe pendant la game. Donc j'admire, mais pas pour moi.
Et celui-là a l'air encore plus difficile à jouer. C'est le genre de personnage qui, avec une équipe hyper coordonnée, peut permettre des trucs assez fous. Mais en quick play ou en équipe aléatoire, ça risque d'être un petit peu compliqué avec Life Giver.
J'aime bien le design du personnage, je le trouve beau.
Le quoi, pardon ?
Le design du personnage, j'aime beaucoup.
Oui, il a fait vibrer un petit peu le métrosexuel en moi, tu vois, avec sa petite combinaison bien ouverte sur le torse. La version où tu vois presque le nombril, avec sa main derrière le dos, tu vois. En plus, Pardon ?
Je disais, il a une certaine classe quand même. Vraiment.
Je trouve. Il y avait une histoire aussi, enfin, évidemment, ça a fait genre hurler les internets parce qu'il est censé être pansexuel, je ne sais pas comment on dit en français, pansexuel. Mais oui, je l'avoue qu'il est quand même, effectivement, il a une certaine classe. Je veux dire, si j'avais ce genre d'affinité, je dirais peut-être pas non, tu vois, il est. Quoi d'autre ? Ah oui, il y a le film Super Mario qui est en train de sortir. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en France. Oui, c'était ce mercredi. Ou c'est juste les previews
Non, c'est ça, il est sorti.
Il est sorti. L'un de vous l'a vu déjà ou pas encore ?
Pas encore,
moi non plus. On en parlera quand on l'aura vu. Les reviews ont l'air de dire « Ouais, c'est bien, c'est un peu attendu. » Pas incroyable, il n'y a pas une histoire de fou. En même temps, j'attendais pas forcément une histoire de fou dans Mario. J'attendais des petits Toads marrants et Bowser qui fait et voilà et des bonnes références. Donc ça c'est cool. En attendant, un truc par contre là que je vais attendre au tournant, c'est Street Fighter. Visiblement, il y a eu une acquisition des droits. C'est Legendary, c'est qui déjà ? Non, c'est peut-être pas Legendary. C'est ça, c'est Legendary qui a acquis les droits de Street Fighter pour les films et les séries. Est-ce qu'on aurait enfin droit à une adaptation correcte de Street Fighter à la télé ou au ciné ?
Alors, ça a été confirmé que du coup, ça serait un film. Il me semble qu'il y a Capcom qui a confirmé ça cette nuit. Il y a un film live-action qui était en préparation. Et forcément, on pense tous au film avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Mais j'ai très hâte de voir ce qu'il peut faire avec Street Fighter parce qu'on n'a pas des très bons souvenirs.
Alors, autant pour la plupart des jeux, tu te dis j'espère qu'ils vont être fidèles à l'histoire du truc, autant pour Street Fighter. Ils peuvent s'écarter un petit peu de l'histoire de Street Fighter, c'est pas plus mal. Pas que le scénario soit un point de focus particulièrement prestigieux dans le jeu. Mais bon, pas du fanservice un petit peu, mais pas besoin de reproduire tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais forcément, en tant que fan de Street Fighter, je l'attends avec impatience. Quelques petites news encore. On va finir sur un truc qui est méchant, mais méchant rigolo, parce que personne n'en souffre vraiment, peut-être si. Avant ça, il y a dans le Game Pass d'avril, il y a Ghostwire Tokyo, Évidemment, c'est un jeu Microsoft maintenant. Donc, il arrive dans le Game Pass. Il était dans le PlayStation Plus le mois dernier, je crois. Et Minecraft Legends, qui arrive dans le Game Pass, mais qui est aussi une sortie en avril, qui est vers le 15, 14, je ne sais plus. Donc, il arrive bientôt, qui est un jeu aussi qui, bah, on parlait du Game Pass, qu'on pourra tous tester sur le Game Pass. Tous les abonnés pourront le tester. Et la dernière news que je voulais traiter, c'est l'annonce du départ de ce pauvre Phil Harrison de Google, de Stadia, qui a désormais à son actif, je crois, le palmarès le plus... le moins prestigieux, on va dire ça comme ça, de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, puisqu'il a présidé au lancement de la PlayStation 3, et enfin présidé, il a fait partie de l'équipe du lancement de la PlayStation 3, de la Xbox Series X, et maintenant de Stadia, et il est parti par la petite porte hein, de chez Google en début d'année. Je ne m'inquiète pas pour lui, je pense qu'il a quelques réserves monétaires dans un coin, vous voyez, c'est pas que... Mais je me demande qui va engager ce pauvre Phil Harrison à l'avenir, parce que c'est quand même... Admettons que ça ne soit pas lui qui ait pris les mauvaises décisions, c'est possible, hein, peut-être qu'il était, il y avait des contraintes, qu'il était... Au minimum... C'est un porte-malheur de proportions absolument monumentales. Un parcours comme ça, je crois que c'est difficile à imaginer dans quelque industrie que ce soit. Et bon, je ne vais pas m'acharner sur Phil. Encore une fois, je pense qu'il va bien. Hein. Il n'y a pas de soucis graves au niveau de sa survie financière, j'imagine. Mais c'est notable quand même. Peut-être qu'il finira dans un... Je le vois bien, genre conseiller dans un fonds d'investissement ou un truc du genre, ou au bord d'une boîte. C'est le genre de poste dans auquel ils finissent, ces gens-là.
Je le vois bien finir chez Meta ou dans les NFT ou quelque chose comme ça. S'il pouvait faire couler deux, trois choses en même temps...
Ouais, les NFT, en même temps, ils ont plus tellement plus le vent en poupe. Bon, c'est...
Ils n'ont pas besoin d'élan pour couler, oui.
C'est ça. Je me demande vraiment, enfin, c'est un type qui a fait toute sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Logiquement, il devrait trouver une place dans cette industrie-là. Je ne sais pas qui va l'engager aujourd'hui. Enfin, il doit avoir un carnet d'adresses qui est incomparable, donc ça peut être utile pour certaines choses. Mais il est radioactif en même temps. Vu ce qu'il a fait jusqu'ici. Je sais pas. Bref, 3-4-3, comme on dit en anglais. Bon vent, Phil Harrison. On t'aime bien tout de même. Et c'est sur cette remarque peu charitable qu'on va terminer cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir été présents dans l'émission. C'était un plaisir de vous avoir comme à chaque fois. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver sur Internet ? Commençons par Jordan et on garde la meilleure pour la fin. Tu m'excuseras, Jordan, cette caractérisation. Où on te retrouve, Jordan ?
Alors, vous pouvez me retrouver sur actugaming.net, donc un site d'actualité de jeux vidéo. Et petite annonce aussi, si vous aimez les jeux français et les jeux produits en France... on en parlait en début d'émission que chacun fait son petit événement de Nintendo Direct, etc. Chez ActuGaming, on fait aussi notre événement sur les jeux français. Donc on invite les studios français à venir présenter leurs jeux dans une émission dédiée. Donc, ça s'appelle l'AG French Direct. Et on aura bientôt un nouveau numéro qui va arriver. Donc si vous êtes intéressé par les jeux français comme Tinykin, etc., jetez un œil, je pense que ça va vous intéresser.
AG French Direct.
C'est ça.
Tout à fait. Merci et on mettra le lien vers ton compte Twitter à toi dans les notes de l'émission pour que les auditeurs puissent retrouver facilement ActuGaming parce que souvenir ActuGaming.net, tout ça, c'est difficile. Donc, on aura le lien dans les notes de l'émission. Julie, où es-tu sur Internet ?
Eh bien, encore et toujours sur Twitter. Moi, ça change jamais. Et c'est RiotFR_Tina.
RiotFR underscore Tina. Le lien sera aussi dans les notes de l'émission, évidemment. Tina, c'était juste ton pseudo que tu utilisais depuis longtemps, c'est ça ?
Non, bah en fait, pour l'anecdote, c'était quand on arrive à Riot, on doit choisir un pseudo, un nom de Rioter.
Et j'étais en panique totale parce qu'à l'époque, mon pseudo c'était Miss Ju et je voulais absolument pas avoir ça. Et donc j'ai pris Tina en référence à un de mes jeux préférés qui est Borderlands.
Ah, d'accord. Très bien, voilà. Très bien. Tiny Tina, effectivement. Ouais, je comprends. Tu sais, je pensais que c'était peut-être lié à ça, mais j'étais pas sûr. Mais du coup, mon intuition était juste. Super. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Mastodon. Allez, on va dire Mastodon. C'est un peu plus moderne, un peu barbu, mais c'est mieux que Facebook. Même si je suis sur Facebook aussi. Et partout, NotePatrick, vous avez notepatrick.com pour tous les liens, y compris les podcasts et la newsletter dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt orientée tech, mais surtout si vous êtes patriote, vous pouvez la recevoir de toute façon. Et d'ailleurs, à propos de Patreon, patreon.com/rdvjeu pour soutenir l'émission, c'est ça qui est important dans toute cette histoire. Et n'oubliez pas le sondage, alors ça fait beaucoup de choses, hein, mais il y a le lien vers le sondage dans les notes de l'émission aussi. Vous pouvez retrouver tous les liens de tout ce dont je parle dans les notes de l'émission qui sont disponibles dans votre app de podcast, sur le site web, un petit peu partout. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.